Bonjour à toutes et à tous, je suis Emma, UX UI Designer à La Grande Ourse. Merci de nous rejoindre pour cet épisode d'Un Poil d'UX. Aujourd'hui, nous accueillons Christophe Clouzot, qui est expert Green UX et éco-conception numérique chez Temesis, membre du comité scientifique de l'Institut du numérique responsable et membre contributeur dans les associations Green IT et Designer Éthique. Christophe se distingue en tant qu'expert de l'éco-conception numérique, apportant une précieuse expertise grâce à sa vaste expérience et sa connaissance approfondie du domaine. Nous allons aujourd'hui voir comment on peut améliorer l'impact environnemental d'une interface en tant que designer. Bonjour Christophe.
Bonjour Emma et bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent.
Avant d'aborder le cœur du sujet, je vais te laisser te présenter et nous en dire un peu plus sur ton parcours.
Oui, donc je m'appelle Christophe Clouzot, je fais du web depuis de très nombreuses années. J'ai dû commencer dans les années 1996, où j'ai testé pas mal de choses avant de créer ma propre agence digitale. Donc, je suis plutôt du côté UX de la force que du côté code, on va dire. Donc, j'ai commencé à créer ma société en 2005, une agence digitale, donc forcément sur l'UX et le design. Que j'ai ensuite revendu dans les années 2018 et j'ai commencé à m'intéresser à l'impact du numérique dans les années à peu près 2010 puisqu'à cette époque-là il y avait je faisais partie d'un groupe de communication où il y avait le pôle édition, le pôle vidéo, le pôle relations presse et moi j'étais donc le pôle web entre guillemets et on avait des clients qui venaient nous voir en disant on a une politique de développement durable donc tous les rapports d'activité qu'on fait en papier on arrête de le faire, il faut sauver la planète, on arrête le papier, il faut tout numériser. Et donc, on s'est mis à avoir, nous, les budgets pour faire des rapports d'activité ou des rapports financiers en version numérique. Et curieusement, presque 2-3 ans après, les mêmes clients revenaient nous voir en disant, en fait, on va faire les deux versions, à la fois papier, print et numérique. Et là, je me suis dit, en fait, tout l'argument du développement durable, de l'impact environnemental tombe à l'eau. Et j'ai commencé à m'intéresser à aux impacts, on avait déjà des données à l'époque, donc je rappelle, année 2010 à peu près, on avait déjà des données en termes d'impact gaz à effet de serre et CO2 sur la production de papier, production livre. On avait peu de choses côté numérique, il y avait Green IT qui existait, mais pas forcément une approche grand public pour dire quand vous envoyez un mail, voilà l'impact, c'est pas magique. Quand vous consultez votre moteur de recherche et que vous lancez une requête, et ben voilà l'impact. Quand vous achetez du matériel, eh bien, voilà l'impact. Il n'y avait pas ces données-là à l'époque. Et j'ai plongé dedans comme ça, voilà, en faisant un peu de blogging, un peu de conférences, et puis en me rapprochant avec d'autres personnes qui étaient intéressées par le sujet.
Super, merci beaucoup. Pour la première question, on va voir qu'est-ce que l'éco-conception et en quoi ça va être important dans le domaine du design d'interface.
Alors, l'éco-conception, ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire que l'éco-conception, ça existe dans n'importe quelle industrie, que ce soit dans le secteur textile, automobile ou autre. Donc, dans le numérique, c'est l'éco-conception numérique. On s'intéresse à l'impact, on va dire, d'un service numérique tout le long de son cycle de vie. Et l'éco-conception dans le numérique, c'est une démarche d'amélioration continue. L'objectif, c'est bien de diminuer l'empreinte environnementale d'un service numérique, et ça, dès la conception. On ne va pas seulement le mesurer à la fin que le service numérique ait été créé, c'est dès la conception, on cherche à minimiser, à réduire son empreinte environnementale. Donc on est dans les sujets de la sobriété, de conception, à la fois donc la conception, mais aussi les usages, parce que forcément, si on est en sobriété dès la conception, il y aura des répercussions sur l'ensemble du processus de fabrication, donc le développement, etc., mais aussi dans finalement l'utilisation des services par les utilisateurs quand ils l'auront en main. L'objectif de l'éco-conception, c'est surtout d'éviter le renouvellement des équipements, donc éviter l'obsolescence de nos matériels, puisqu'on va éviter de produire des interfaces ou des services très très lourds, consommateurs, qui nécessitent peut-être de nouvelles technologies, donc de renouveler ces équipements. On n'est pas du tout dans cet objectif-là, mais carrément l'objectif inverse, pour éviter effectivement le renouvellement des équipements.
Ok, super. Et du coup, pour toi, quelles sont les meilleures pratiques qu'on peut mettre en place en matière d'éco-conception, justement pour la conception d'écran ?
Eh ben moi, j'aime bien parler de Green UX. Tous ceux qui font de l'UX savent qu'on est user-centric, c'est-à-dire centré utilisateur, on s'intéresse vraiment aux besoins des utilisateurs. Et j'aime bien rajouter le mot green, parce qu'on serait à la fois user-centric et planète-centric. Donc, si on réfléchit aux deux. On ne fait pas des choses qui sont complètement inutiles, on est toujours centré utilisateur, mais on va réfléchir à l'impact environnemental qui est derrière. qu'on aime bien appeler dans l'association du collectif Green IT, c'est la réflexion autour de l'unité fonctionnelle. On va réfléchir straight to the point. Et l'unité fonctionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est typiquement rechercher une information, lire une vidéo, échanger un fichier, lire un article. C'est vraiment l'unité fonctionnelle du service ou simplement de l'interface. Et on va se concentrer dessus et entre guillemets, tout ce qui est autour, ce serait ce qu'on appelle nous du gras, de l'obésité. Typiquement, inscrivez-vous aussi à notre newsletter et puis allez voir ce qui se passe sur notre réseau Twitter et puis regardez nos photos Instagram et puis aussi pourquoi vous ne vous abonnerez pas à ça et pourquoi ne pas conseiller ça à votre ami, etc., etc. Donc, on touche du doigt peut-être la notion d'éthique, dark pattern. Donc, ça, effectivement, c'est des warnings qu'on a en tête. On fait attention à ça, mais on cherche bien à éviter tout ça. Donc, en étant sur l'unité fonctionnelle, on se concentre juste sur les services utiles et si possible, compatible, sur les anciennes générations d'équipements, justement pour éviter ce renouvellement de matériel.
Ok, c'est super intéressant, merci beaucoup. Et du coup, de quelle manière on peut justement encourager les designers à appliquer ces bonnes pratiques pendant la conception des écrans?
Alors, nous, ce qu'on voit chez Temesi, c'est que de toute manière, ça passe par de la sensibilisation, comme on peut faire là à travers un podcast, hein, histoire d'initier déjà le sujet, et de la formation. Donc, ça peut être de la formation sur une journée, deux journées. On peut aller aussi dans des formations plus poussées en étant très pratique hein, sur du Figma ou sur d'autres logiciels. Mais l'idée est bien de passer par là. En tout cas, il faut déjà être sensibilisé un peu au sujet pour dire « Ok, comment je fais pour y aller ?» et pour le coup, je me forme. Il existe des MOOC en ligne pour vous sensibiliser et vous auto-former, on va dire, en une demi-heure ou en quelques heures. Donc, ça vous donne déjà un premier pied à l'édifice. Mais bien entendu, l'idée est plutôt de passer par des formations professionnelles. Mais de notre point de vue, nous, ce qu'on a envie de dire, c'est jetez-vous, allez-y, montrez que c'est possible, faites des fautes, ce n'est pas grave, mais comme c'est de toute manière de l'amélioration continue, allez-y. Et vous avez aussi des sites qui vous donnent des exemples d'inspiration. Si vous hésitez en vous disant ça va être moche, je ne vais pas réussir à convaincre ma hiérarchie ou mes autres collaborateurs ou autres. Donc, je peux vous en citer deux. Il y a le Low Directory, donc c'est LOWW.directory. Et ça, c'est un annuaire de sites, pas tous forcément super éco-conçus, mais qui donne déjà un bel éventail de ce qui est possible de faire. Et vous avez la même chose, donc toujours Low, donc LOWW, mais cette fois-ci carbone.com, donc lowcarbone.com, qui est son pendant anglophone, le premier étant francophone. Et ça, ça inspire bien et ça montre qu'on peut avoir un champ créatif possible.
Ok, super. Bah, n'hésitez pas à jeter un œil à ces deux sites d'inspiration. Ensuite, comment on peut mesurer justement en fait, l'impact environnemental d'une interface?
Alors, généralement, à ce stade-là, on parle plutôt d'évaluation que de mesure. Okay. Parce qu'il y a différents systèmes qui cohabitent ensemble justement pour faire des équivalents gaz à effet de serre, carbone, consommation énergétique, etc. Même s'il y a des outils parfois de mesure qui vont très très loin, globalement, nous, on parle d'évaluation. Et il y en a certains qui donnent des mesures très précises hein, sur l'énergie. Mais globalement, quand on se jette dans le sujet, c'est plutôt de l'évaluation. Et il existe plein d'outils donc, qui vont à la fois regarder ce qui se passe sur les trois tiers du numérique, c'est-à-dire ce qui se passe du côté de l'équipement, donc le terminal qu'on a entre les mains. À l'opposé, vous avez l'hébergeur qui a toutes les données. Et entre les deux, tout le réseau, donc les câbles satellites, les bornes au bout de votre rue, les câbles sous-marins, bref, tout ce qui arrive jusqu'à votre box ou à votre Wi-Fi. Donc, ce qui montre bien que déjà, juste sur le périmètre de ces trois tiers, il y a forcément différentes typologies de mesures ou d'évaluations environnementales qu'on peut émettre. Donc, si on veut démarrer, nous, ce qu'on conseille le plus simple, c'est ecoindex.fr, donc ecoindex.fr, qui est l'outil historique de Green IT. On soumet son URL. Et au bout de trois métriques, en fait, il vous donne un résultat avec ce qu'on appelle un éco-score, éco-index. Donc ça, c'est assez simple à comprendre. Mais après, il y a des outils plus spécifiques qui vont un peu plus loin. Donc même si ça reste, entre guillemets, grand public professionnel, on peut déjà citer ceux de Green Spector, de Fruger, Green Frame. Vous avez aussi EcoGrader, donc sur la partie anglophone, Scaffold, donc, qui est un outil open source, mais qui va juste mesurer ce qui se passe sur le réseau et l'architecture serveur derrière. Bref, il y a tout un éventail. J'en cite quelques-uns, mais effectivement, je ne peux pas tous les citer. Je m'excuse pour ceux que j'ai oubliés. Et puis surtout, ce que nous, on a tendance à regarder au-delà des outils, c'est ce qui se passe réellement dans le navigateur. Donc, dans le navigateur, il y a ce qu'on appelle les dev tools, donc les outils pour les développeurs. Donc, quand on ouvre ça dans le navigateur, on a déjà tout un tas d'informations de ce qui se passe dans le réseau et quel type d'informations sont remontées au navigateur. Et lui, forcément, il ne triche pas, puisque c'est bien ce qu'il va vous afficher sur votre interface. Donc ça donne des informations très, très, très précises et qui sont des informations brutes, sans interprétation par un outil. Donc voilà déjà différentes manières d'aller voir. Ce qui donne un bel éventail, et on se dit, oulala, ça commence à être compliqué, donc c'est pour ça que je répète, le plus simple, quand on veut se jeter au tout début, passer par ecoindex.fr, ça donne déjà un bel indicateur.
Ok, très bien. Pour toi, comment on peut optimiser l'efficacité énergétique d'une interface sans compromettre l'expérience utilisateur ?
Eh bien, c'est là tout l'enjeu de ce que j'appelle, moi, le Green UX. C'est-à-dire qu'on va penser planète, mais on va aussi penser utilisateur. Par exemple, ce qu'on dit, nous, en formation, c'est qu'entre justement 1995, qui est le début du web, et aujourd'hui, le poids moyen d'une page web dans le monde, c'est-à-dire qu'on prend toutes les pages web du monde, on divise par le nombre de pages, donc on a un ratio, en fait, très, très, très bête, hein, mais le poids moyen d'une page web, il a été multiplié dans ces années-là, entre 1995 et 2022, il a été multiplié par 165. On est passé de 14K, une page web, à une moyenne de 2,3 mégas, pour faire quasiment la même chose. C'est-à-dire que dans les années 2000, au tout début des années 2000, on faisait la même chose que ce qu'on fait aujourd'hui en utilisation du numérique, c'est-à-dire qu'on échangeait des informations, on s'échangeait des fichiers, on dialoguait, on chattait, on allait lire des articles, on achetait des choses en ligne, on allait acheter des pièces de théâtre, etc., ou de cinéma. Enfin bref, l'utilisation du numérique au début du numérique est quasiment la même que celle d'aujourd'hui. La grande différence entre les deux, c'est la place qu'a pris la vidéo. Mais globalement, c'est les mêmes usages. Donc, une réflexion usage et à la fois une réflexion environnementale est tout à fait possible. Et quand on veut commencer, on voit les designers effectivement qui se mettent à produire des pages très énergivores. On leur dit, dans les toutes premières secondes, on dit top, arrêtez tout. Passez en mobile first. Ce qui fait qu'on a des gens qui ont des super écrans Macintosh qui font 10 000 pouces de large, enfin bref. Et on leur dit tout de suite, mettez-vous en mobile first, ce qui fait que ça restreint automatiquement le champ des possibles sur la largeur. Et pour le coup, il y a une réflexion contenue, priorité de contenu et priorité de fonctionnalité et d'interactivité qui doit automatiquement être prise en compte dans le haut des pages, on va dire, des interfaces, puisque tout le monde veut être là avant de scroller. Donc, on redonne de la priorité à ça, au contenu, à l'interaction, en étant mobile first. Et après, si on arrive à empiler tout ça, parce que c'est que de l'empilement, et ben, en agrandissant, on va dire, la largeur de l'écran, forcément, ça va pouvoir se répartir. Donc ça, c'est une approche qu'on a tendance à conseiller autour de l'unité fonctionnelle.
Ok, super. C'est vrai que le mobile first, ça permet vraiment d'avoir juste ce qui est indispensable dans nos écrans.
Alors après, ce n'est pas non plus la seule solution. Hein.
Oui.
Mais c'en est une pour aborder, pour se dire, oula, je restreins en fait mon cerveau à cette largeur-là. Et qu'est-ce que je peux mettre en priorité dedans pour que l'utilisateur réponde à ce que je souhaite et qu'il, lui, soit toujours dans son besoin et ses attentes.
Ok, très bien. J'ai vu que tu avais co-rédigé le RGESN, donc le référentiel général d'éco-conception des services numériques. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Oui, alors ça, c'est effectivement un gros chantier qu'on a commencé en 2021. Donc, c'est un chantier pour l'État, hein. C'est un référentiel d'État. Donc, on connaît le RG2A peut-être, donc RGAA pour l'accessibilité. On connaît un petit peu plus le RGPD, très contraignant, sur le respect de nos données personnelles. On n'avait rien sur l'éco-conception et on a eu une commande dessus pour effectivement co-rédiger pour l'État ce référentiel qui est sorti en consultation publique, donc courant de l'année 2021, et officialisé en version 1 en 2022. Et globalement, c'est 8 thématiques de famille. Donc, on a la stratégie, les spécifications, tout ce qui concerne le contenu, l'UX UI, le front dev, le back, l'hébergement. Donc, ça reprend en fait tout le processus de fabrication d'un service numérique. Et dedans, il y a 79 critères. Chaque critère définit pourquoi le critère existe, donc ses objectifs, comment on peut le mettre en œuvre et comment on peut le vérifier. Donc, ça, c'est un véritable outil qui sert en fait à toute personne travaillant dans le numérique, qui peut être à la fois soit commanditaire, soit côté opérationnel. Puisque avant de se plonger dans la production, on va dire, d'un service numérique, on aurait tendance à lire ses critères, tout comme on pourrait lire les critères du RG2A et du RGPD, pour éviter de tomber dans un gros blâme à la fin. Pendant le processus de réalisation, on peut suivre si on tient toujours ces critères-là, en fait, si on est toujours conforme aux critères. Critères qui définissent, par exemple, qu'il n'y a pas de lancement automatique de médias, donc ça c'est sur la partie UX, que côté contenu, par exemple, on va demander à limiter le poids des informations demandées lorsqu'on va remplir un formulaire pour éviter d'envoyer peut-être des PDF trop lourds. Voilà, donc typiquement, on vérifie si on tient toujours ça depuis la conception. Et en aval, donc c'est une fois que le service numérique est fini, là, ça permet d'auditer, en fait. Donc, à la fois sur la formation, l'accompagnement et l'audit. Et ce référentiel est complètement en train d'évoluer. C'est-à-dire qu'il a à peine un an, mais il est déjà en train d'évoluer, puisque c'est sa version 1. Donc, Cocorico, c'est le seul au monde à être sorti. C'est aussi sa faiblesse, ce n'est qu'une V1 pour l'instant, plutôt orientée web. Il manquait quelques critères. Donc, maintenant, il y a une autre famille qui est apparue qui s'appelle apprentissage, qui concerne tout ce qui est apprentissage de modèles numériques et de modèles algorithmiques, donc très clairement orienté intelligence artificielle. Il y a beaucoup d'impact du côté de l'intelligence artificielle. Donc, on va passer maintenant à 9 familles, à 91 critères, et ça sera lancé courant 2024. Donc là, le référentiel est en consultation publique. Il est aussi en atelier de travail auprès de professionnels du secteur du numérique responsable. Et ça sera officialisé donc en 2024 et intégré dans la loi, donc ça c'est une nouveauté, intégré dans la loi REN, donc REEN, réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Donc ça c'est plutôt cool, on a un référentiel, on a une loi, des choses qui se mettent un petit peu en place et qui permettent de guider, on va dire, les professionnels numériques qui soient, donc je le répète, à la soit commanditaire, soit opérationnel.
Ok, très bien.
Donc, un vrai guide.
Super.
Juste une précision, pourquoi finalement on fait de l'éco-conception ? J'ai dit tout à l'heure qu'effectivement, on cherchait à réduire l'impact sur le renouvellement du matériel et des équipements. Mais quand on fait de l'éco-conception, en fait, les seules choses auxquelles on va essentiellement réfléchir au-delà de l'impact sur les utilisateurs hein, et de leurs besoins, c'est réduire le stockage des données, éviter le transfert de ces données sur les réseaux, et potentiellement aussi passer moins de temps sur les écrans. Voilà, donc là, il y a un effet dark pattern qu'on essaye d'éviter au maximum.
Ok, très bien. Pour terminer, est-ce que tu as des exemples concrets de projets ou d'entreprises qui ont réussi à améliorer l'impact environnemental de leurs interfaces grâce à l'éco-conception ?
Alors oui, et c'est bien. Donc il y a beaucoup d'exemples aujourd'hui qui sont en ligne, qui se mettent à communiquer dessus. Donc forcément, ce sont des gens qui sont plutôt convaincus, qui vont déjà dans les premiers sites internet et qui vont communiquer dessus. Donc on peut citer, nous, l'ADEME.fr, donc le site de l'ADEME. L'ADEME, c'est l'agence de communication, en gros, du ministère de la Transition et de l'Écologie. Forcément, ils étaient impliqués dans l'arrivée du RGESN. Donc ils ont pu tenir compte des premiers critères pour la refonte de leur site. Ils l'ont lancé en mai et juin 2022.
Ok.
Et c'est aujourd'hui, en termes d'audit de notre côté, c'est le meilleur score de conformité au RGESN. Ils ont obtenu presque 70% de conformité. Mais on a aussi des agences, on peut citer typiquement Nili.fr qui a fait un gros travail d'éco-conception de son site internet, donc le site d'une agence digitale. Hein. On a aussi, en termes de métropole, on peut citer Grenoble-Alpes-Métropole. On a donc le grenoble-alpes-métropole.fr, si vous voulez aller voir, qui a fait un gros effort sur cette approche Green IT. On a le rapport financier annuel 2021-2022 de L'Oréal, pour citer une grosse marque, qui montre aussi que même sur le côté du luxe, avec de belles images un peu importantes, ben on peut avoir une approche d'éco-conception. On a le site internet de Temesis, qui est extrêmement éco-conçu et très épuré. Et forcément, il y en a d'autres, donc je m'excuse pour les autres que je ne cite pas là en tête.
Super, bah merci beaucoup Christophe. On arrive à la fin du podcast. C'était super intéressant et j'espère que les personnes qui ont écouté ce podcast auront appris plein de choses.
Bah, c'était avec plaisir. En conclusion, moi, j'ai envie de dire, jetez-vous. Voilà, essayez. Il y a plein d'outils, il y a un référentiel, il y a une loi qui se met en place. Jetez-vous. Alors, là, j'ai donné aussi quelques exemples de sites inspirants. allez-y, essayez, même si ce n'est pas parfait dès la première fois, et ça ne le sera pas, ce n'est pas grave. Mais l'idée, c'est de gravir l'escalier.
Très bien. Merci Christophe.
Avec plaisir.